les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Guillaume Erner. Donc, le Venezuela ce matin, assiste-t-on à la fin du régime ? Jean-Jacques Orlianski est notre invité, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Alors la situation au Venezuela semble non seulement économiquement catastrophique, mais politiquement ingérable. Les faits parlent d'eux-mêmes, manifestations nombreuses, pillages, émeutes fréquentes. Les prix ont augmenté de 180% en 2015 selon les autorités et devront augmenter de 700% en 2016 selon le FMI. Les biens de première nécessité manquent cruellement, les rayons des pharmacies sont vides, les administrations non essentielles ne travaillent plus que 2 jours par semaine, on a changé leur légal par économie, l'état d'urgence économique a été décrété en janvier, l'état d'exception depuis mi-mai, un décret présidentiel vient d'élargir les pouvoirs du gouvernement et de l'armée. Alors comment arrêter cette descente aux enfers ? Le pays, on le rappelle, est pétrolier, il détiendrait les premières réserves mondiales prouvées de pétrole et il en vend d'ailleurs beaucoup aux États-Unis. Et dernière chose, la semaine dernière, le secrétaire général de l'Organisation des États américains souhaitait voir appliquer au Venezuela la charte démocratique intra-américaine et inter-américaine plutôt, qui prévoit des sanctions pour les gouvernants menaçant l'ordre démocratique. Tout de suite, Jean-Jacques Orlianski.
La situation politique a toujours été difficile au Venezuela, avant l'arrivée d'Hugo Chavez au pouvoir, comme après son arrivée au pouvoir, et encore plus aujourd'hui, qui, avec son remplaçant Nicolas Maduro, qui n'a manifestement pas son charisme et son autorité, y compris dans ses propres troupes. Cette situation difficile, finalement, était plus ou moins bien gérée en raison du prix du pétrole qui permettait au Venezuela de vivre au-dessus de ses moyens. Ce n'est plus aujourd'hui le cas. Le Venezuela, comme d'autres pays monoproducteurs de pétrole, est gravement affecté par la détérioration des prix du baril, même si dans les dernières semaines, on assiste à un petit redressement, qui est sans doute extrêmement insuffisant.
C'est une victime indirecte de la décision saoudienne d'il y a 2 ans d'abaisser brutalement le prix du pétrole, le Venezuela, avec par exemple l'Algérie, bien sûr, la Russie, etc. Et en même temps, ce qui est frappant, Jean-Jacques Colianci, c'est à la fois l'entêtement du régime et surtout la situation économique mais catastrophique.
Oui, dans la mesure où le Venezuela n'a jamais réussi à diversifier son économie, il est extrêmement dépendant d'un seul produit. Si ce produit se vend bien, le Venezuela vit assez bien. Si le produit se vend mal, c'est la crise. Beaucoup d'observateurs ont rappelé qu'il y avait eu une phase identique dans les années 80 qui s'était terminée par un terrible massacre des tirs de la police et de l'armée sur des manifestants mécontents les ajustements de prix imposés par le gouvernement de l'époque en 1989. Donc on est en train de revivre un même cycle pour les mêmes raisons. Le Venezuela n'a toujours pas diversifié son économie, il vend moins de pétrole, donc il n'a plus les moyens d'acheter même des produits de première nécessité comme de l'huile, du sucre, des médicaments, des rouleaux de papier toilette, etc. Donc les magasins sont vides puisque le Venezuela ne peut plus importer la totalité de ce qu'il consomme habituellement. Et dans certaines industries d'assemblage agroalimentaire, les chaînes sont arrêtées, comme par exemple la bière, puisque une grande société qui produit de la bière au Venezuela, qui s'appelle Polar, n'a plus les moyens financiers, n'a plus les devises pour importer le malt nécessaire à la fabrication de cette boisson qui est la boisson nationale des Vénézuéliens. Mais la Coca-Cola se trouve dans la même situation. Et Coca-Cola Venezuela n'a plus les moyens d'acheter le sucre nécessaire à la fabrication de la boisson. Donc on arrive à une situation quasi terminale de l'économie vénézuélienne, qui génère, comme vous pouvez vous en douter, beaucoup de mécontentement dans la mesure où les consommateurs, quel que soit d'ailleurs leur niveau de vie, sont obligés de passer des heures dans des queues devant des supermarchés ou des magasins qui n'ont pas les produits nécessaires à leurs besoins.
Alors, Jean-Jacques Orlianski, on a évidemment l'impression quand même que la chute brutale du cours du pétrole n'explique pas tout et que la responsabilité du régime semble quand même considérable. Alors, il y a eu un état d'exception puis mi-mai, un état d'urgence économique décrété en janvier, qui est prolongé, un décret présidentiel qui vient d'élargir les pouvoirs du gouvernement et de l'armée, etc. On a l'impression d'une impasse totale.
Oui, le gouvernement est, comment dire, désarmé. C'est paradoxal dans la mesure où, effectivement, il applique des mesures d'urgence. Il est tenté de désigner un bouc émissaire extérieur, un complot extérieur, Mais le problème de fond, c'est celui que je vous exposais tout à l'heure, c'est-à-dire que le Venezuela a une économie monoproductrice de pétrole qui n'a jamais été diversifiée, et donc les autorités touchent le fond du seau, dans la mesure où il n'y a pas su, l'actuel, comme son prédécesseur, ou ceux qui étaient avant, n'ont pas su diversifier l'économie. Donc la recherche, il y a deux solutions. Soit comme en 89, on fait tirer l'armée et la police sur les manifestants à partir du moment où les gens n'en peuvent plus et finissent par prendre la rue. Soit on essaie de trouver des boucs émissaires extérieurs. C'est que semble faire le gouvernement d'aujourd'hui en désignant le gouvernement espagnol de Mariano Rajoy ou l'ancien président colombien Alvaro Uribe qui effectivement a eu des propos assez malheureux qu'il a tenu aux États-Unis en recommandant une intervention armée au Venezuela, l'extérieur, ou les États-Unis. Mais bon, ce type d'argument est d'autant moins crédible et c'est une stratégie qui est d'autant plus difficile à mettre en œuvre que les relations de force en Amérique latine ne sont plus aussi favorables qu'elles l'étaient pour le Venezuela il y a quelques années. L'Argentine a basculé vers un gouvernement plutôt libéral. Le Brésil n'est plus en mesure de jouer les médiateurs. Il est lui-même victime d'une grave crise, tout à la fois économique et politique. Donc le Venezuela est un peu seul. Le Cuba s'est tourné vers les États-Unis. Enfin, donc le contexte n'est plus le même.
Et alors, justement, l'opposition au Venezuela donc exige la tenue d'un référendum révocatoire. L'opposition, c'est une coalition de partis qui ont remporté les législatives de décembre dernier facilement, 112, je crois, sur les 167 sièges. Alors là aussi, il y a une impasse totale sur le plan de la politique intérieure.
Bon, alors sur le plan de la politique intérieure, la crise est ancienne, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a un déni de légitimité mutuelle entre l'opposition et les autorités. Alors, ce déni est d'autant plus grave qu'il a abouti à une cohabitation conflictuelle. Les élections présidentielles et les élections législatives obéissant à des calendriers différents. En 2013, Nicolas Maduro, donc le parti bolivarien d'Hugo Chavez, donc, a été perpétué au pouvoir. Et aux élections législatives de deux années plus tard, en décembre 2015, c'est la majorité, l'opposition qui a remporté une majorité écrasante. Depuis cette date, on assiste à l'adoption de mesures et de lois par le Parlement qui visent à démonter les capacités, les compétences de l'exécutif. Et d'autre part, l'exécutif se refuse à les appliquer et joue à fond sur une constitution qui est effectivement présidentialiste. Donc la sortie de crise qui a tenté l'opposition ces derniers jours, c'est d'utiliser un article de la Constitution qui avait d'ailleurs été adopté à l'initiative du président Hugo Chavez, qui permet d'organiser, avant la mi-mandat, un référendum révocatoire du président de la République, sous réserve de déposer dans la phase initiale 1% de signatures d'électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, et ensuite de réunir 20% de ces électeurs, ce qui contraint le gouvernement en place à accepter l'organisation d'un référendum. L'opposition avait déjà utilisé cette faculté en 2004. Il y avait eu une élection et le président Chavez avait été confirmé, mais à l'époque il était porté par des prix du pétrole extrêmement élevés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Voilà, donc Jean-Jacques Kurlianski, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, et puis franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger. Et demain, nous parlerons d'ailleurs du gaz de schiste, mais du gaz de schiste américain et les conséquences pour l'Europe.